Une opinion et analyse par Carl Gilbert pour le podcast haïtien Tout Côté, une affiliation de Radio Francophonie Connexion. La fermeture de la frontière par Luis Abinader unifie les Haïtiens et divise les Dominicains. Depuis des années, Haïti patauge dans des crises politico-sociales ayant abouti à l'assassinat de son président. Au moyen d'un système bien établi sur une longue période, grâce aux mains cachées ou non, de monstres politiques et des oligarques rapaces, des gangs commettent des actes de violence impitoyables contre la population haïtienne. Et cette violence a connu jusqu'à ce jour une escalade que même le « vivre ensemble » promis par certains chefs de groupes armés n'a pas su contrôler. Fusillades sanglantes, tueries, voire massacres ont donc été le lot quotidien de la société haïtienne. Puis, est venue la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine par le président dominicain avec toutes les conséquences économiques qui en découlent. Pour illustrer son geste belliqueux qui est loin d'être un geste national ou exploit, à voir les réactions de la société dominicaine, Luis Abinader envoie donc sur la frontière toute une force militaire composée des trois branches de son armée aux fins de montrer qu'il est très résolu dans cette décision pour le moins disproportionnée quant à cette affaire de canal d'irrigation. C'était bien compté mal calculé, monsieur Abinader, estuvo bien contado y mal calculado, sonore Abinader, comme les Haïtiens aiment répéter dans des situations où ils estiment avoir le dernier mot contre un quelconque adversaire qui se croyait malin. En effet, depuis la décision tonitruante du président de la République voisine, différents secteurs de la société haïtienne se sont rapprochés en esprit pour faire face à ce conflit forgé de toutes pièces par le président dominicain. Cette unification s'est manifestée et réverbérée sous plusieurs formes depuis tous les recoins de la ville frontalière de Juanamainte et de Maribaru jusque dans les projects à haut étage de la diaspora haïtienne vivant dans tous les coins du monde. L'unité pour la continuation de la construction du canal d'irrigation de la rivière Massacre n'est pas sans nous rappeler l'épilogue du livre de Les gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain, dans lequel l'auteur nous fait admirer dans son style particulier la Kumbit parcourant les sentiers du village de Font-Rouge, dans cette joie profonde, suite à la trouvaille par Manuel de l'eau qui devrait arroser les champs des paysans, pour de bonnes récoltes à venir. En ce qui concerne le peuple haïtien, Juanamainte est maintenant le village de Font-Rouge où, et nous citons, dans la recherche d'une ligne d'action concrète, nous devons tourner nos regards vers la seule richesse réelle que nous possédons, et nous citons, la force paysanne de travail, cette force paysanne actuellement prisonnière de toutes les servitudes, fin de citation, Anthony L'Espèce 1944. Cofondateur du Parti Socialiste Populaire. Pendant ce temps, du côté dominicain, c'est maintenant la débandade pour ne pas dire déroute. Les petits commerçants ne savent pas où donner de la tête. Car leur production vivrière et leurs produits de quincaillerie pourrissent et languissent dans leur stalles vu qu'ils ne peuvent plus traverser la frontière à cause de la décision impromptue d'Abinader, lui, qui est sorti d'une famille aisée et certainement n'avait jamais connu le soleil ou la pluie au milieu des étalages de vente sur la frontière haïtiano-dominicaine afin d'écouler, pour quelques pesos, des produits commerciaux. Des voix s'élèvent alors de tous les coins de la République dominicaine pour railler Abinader en passe de devenir maintenant une tête de Turc du fait de sa décision d'un polichinelle. Dans leur orgueil froissé, divers secteurs de la société dominicaine cherchent maintenant des subterfuges pour atténuer ou résoudre la crise. Et des éditorialistes de faire croire qu'Haïti est le coupable et que dans un esprit magnanime la République dominicaine devrait rouvrir la frontière pour prouver sa bonne volonté. C'est ainsi que un Fernando Rodriguez a écrit dans Oil que le gouvernement dominicain devrait offrir au monde une démonstration de bon sens, de sensibilité et de volonté de dialogue, s'il permettait la reprise du commerce binational entre Haïti et son pays, comme preuve sans équivoque qu'il souhaite la solution du conflit créé par le pays voisin avec sa décision unilatérale et en violation des accords de 1929 sur l'utilisation rationnelle et coordonnée des eaux de la rivière Massacre. D'autres opinent que le problème resterait entier vu que Haïti n'a pas d'interlocuteur valide. Alors que ce prétexte n'a jamais été invoqué quand la République dominicaine a auparavant permis sur son sol des combines pour nuire aux intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Entre-temps, le peuple haïtien doit rester, pour une fois uni avec les riverains et paysans de Wanamainte, s'il veut sortir victorieux de ce bras de fer qui lui est imposé par la République voisine, ce qui pourra l'aider peut-être, comme en 1804, à sortir du gouffre dans lequel il a été précipité depuis lors. Et maintenant restez à l'écoute pour entendre l'écrivain Jean-Marie Théoda exprimer son opinion sur le sujet sur RFI dont Radio Francophonie Connexion est un partenaire.
Maintenant, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, c'est avec vous, Anne Cantner, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Journal en grande partie consacré à l'actualité en Haïti, toujours coupé de la République dominicaine sur décision du président Abinader. Vous l'entendrez dans un instant et on reviendra sur cette mesure, sur ces mesures, parce qu'il y en a d'autres, avec notre invité, l'universitaire et écrivain haïtien Jean-Marie Théoda. On parlera aussi ensemble de l'Assemblée générale des Nations unies qui commence aujourd'hui et en particulier des attentes des Haïtiens. Au sommaire également, la contre-attaque du président élu au Guatemala et l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de l'entrée des volcans et de la montagne Pelée de Martinique au patrimoine mondial de l'humanité.
Oui, c'est fait, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décision prise ce samedi à Riyad en Arabie Saoudite. Une annonce qui vient récompenser des années de travail.
À tout à l'heure. Le président dominicain persiste, il maintient la pression sur Haïti et exige toujours l'abandon de la construction d'un canal d'irrigation partant de la rivière Massacre.
Notre objectif est de garantir la sécurité et l'intérêt national, ainsi que de protéger nos rivières, notre environnement et notre production agricole. En signe de notre ferme détermination, nous avons suspendu la délivrance de visas, interdit l'entrée des promoteurs de la construction du canal en Haïti, fermé les frontières terrestres, aériennes et maritimes et renforcé la présence militaire tout au long de la frontière. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que nous obtenions l'arrêt définitif de la construction du canal. Il ne s'agit pas d'un conflit entre deux peuples, car ni le peuple dominicain ni le peuple haïtien ne veulent la confrontation. Mais nous affrontons les incontrôlables qui maintiennent l'insécurité en Haïti et qui, pour leurs seuls intérêts particuliers, conspirent maintenant aussi contre la stabilité de leur gouvernement et contre la sécurité de nos ressources en eau.
Et la sécurité de nos ressources hydriques.
Voilà, le président dominicain, pas question donc de rouvrir la frontière fermée vendredi. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne.
Vous avez lu la presse pour nous et les journaux dominicains réagissent à ces propos, à cette décision du président.
Oui, alors que El Nuevo Diario salue, je cite, la détermination et le courage de Luis Abinader, le Listín Diario estime que la fermeture totale de la frontière est la politique la plus adaptée pour garantir la sécurité nationale et notre souveraineté. Et les éditorialiste de poursuivre, la décision responsable du président a le soutien d'une société dominicaine qui sent l'odeur du sang et de la violence qui s'est répandue en Haïti et qui craint légitimement qu'elle ne se propage ici.
Mais tous les journaux ne sont pas sur cette ligne.
Absolument, le quotidien El Día écrit « Au-delà des sentiments nationalistes exacerbés de part et d'autre par cette énième crise entre Haïti et la République dominicaine, force est de constater que les deux pays ont plus à perdre qu'à gagner avec la fermeture de la frontière et qu'il n'y a donc pas d'autre choix que de se comprendre et ensuite s'entendre. » El Nacional se montre plus sceptique. Le gouvernement dominicain conditionne la reprise du dialogue avec Haïti à la suspension immédiate de la construction du canal d'irrigation. Mais qui, en Haïti, pourrait prendre une telle décision si même le Premier ministre haïtien déclare qu'il ne peut empêcher cette construction? Le président Abinader, poursuit l'éditorialiste, aurait pu attendre avant de prendre une décision aussi radicale que la fermeture de la frontière, afin de donner aux chefs d'entreprises locaux une chance de convaincre leurs homologues haïtiens de cesser les travaux sur le canal. Mais le chef de l'État dominicain a probablement subi des pressions de la part de groupes ultranationalistes et ses conseillers l'ont peut-être convaincu qu'en plus de défendre la souveraineté nationale, la fermeture indéfinie des postes frontières aurait des retombées électorales. Donc, en ordonnant la fermeture totale de la frontière, le président Luis Abinader a littéralement franchi le Rubicon de l'histoire et placé son avenir politique et électoral dans ce tonneau sans fond qu'est Haïti. On sait comment la crise a commencé, mais pas comment elle se terminera, estime El Nacional.
Et pour parler de ces tensions, entre autres, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Théoda, écrivain et maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. On a entendu les commentaires du côté de la République dominicaine. Quel regard portez-vous, vous, sur cette montée de tension et la fermeture de la frontière?
Bien entendu, c'est une situation qui me remplit de tristesse parce que je suis spécialiste de la question de la frontière à la République dominicaine et pour avoir fait beaucoup de terrain, beaucoup d'amitié entre Santo Domingo et Port-au-Prince, je me sens pleinement citoyen de l'île. Donc c'est comme si c'était une déchirure dans ma propre chair. Maintenant, le comportement du président Luis Abinader me fait penser à une démarche poutinienne, voyez, c'est-à-dire un pays mieux armé qui se rue sur un pays plus faible au moment précisément où il est aux abois, au moment où tout le monde regarde vers Haïti avec un regard d'empathie, en essayant de voir comment nous allons aider Haïti à sortir de l'ornière du sous-développement, de l'emprise des gangs, etc. Voilà que le président Abinader vient nous donner la dernière estocade.
Ça risque de compliquer encore un peu plus la situation, Jean-Marie Théoda. On a pu joindre ce week-end Rudy Joseph, le porte-parole d'un collectif de défense des droits des Haïtiens en République dominicaine. C'est vous qui lui avez parlé, Stéphanie Schuller, et voici ce qu'il vous a dit. On l'écoute.
Il y a la peur que le gouvernement renforce ses représailles contre la communauté haïtienne dont les membres sont déjà confrontés à des violations systématiques des droits de l'homme. Et il est à craindre que le conflit actuel soit utilisé par les autorités dominicaines pour intensifier ces violations. Parmi ces violations, on retrouve la question du refus d'accès aux soins de santé pour les personnes d'origine haïtienne, et en particulier pour les femmes enceintes, l'expulsion de mineurs non accompagnés, la détention de personnes âgées ou bien de femmes qui allaitent. Les forces de l'ordre s'introduisent même dans les maisons pour arrêter et expulser les gens. Les autorités ont donné l'ordre à la police nationale dominicaine de détenir toute personne qui leur semble haïtienne. Du coup, de nombreux Dominicains noirs racontent être interpellés en pleine rue. La police leur demande leurs papiers et leur extorque de l'argent. Nous demandons au gouvernement qu'il garantisse l'état de droit tel qu'il est inscrit dans la constitution du pays.
Lui demande au gouvernement haïtien d'agir, mais pour le président dominicain, la solution est ailleurs, Stéphanie, auprès de la communauté internationale.
Oui, comme la fermeture définitive de la frontière est impensable, le président Abinader compte sur des résolutions à l'ONU qui permettraient de la rouvrir sans qu'il ne perde la face, estime aujourd'hui le journal Hoy.
L'ONU à la rescousse, alors que débute l'Assemblée générale de l'organisation à New York aujourd'hui. Les présidents haïtiens et dominicains d'ailleurs sont tous les deux partis. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Jean-Marie Théoda, que l'issue peut venir de la communauté internationale?
Vous savez, tout en étant très attristé par la situation, je suis très calme. Je ne pense pas que Abinader soit aussi fou pour se lancer dans une équipée militaire en Haïti qui n'aurait absolument aucun sens. La Dominicanie a davantage à perdre qu'Haïti dans ce genre de situation. Donc, je pense qu'il a été un peu trop vite. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Il cherche une issue de secours tout en restant sur une attitude de matamor, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est candidat à sa réélection et qu'en République dominicaine, la veille des élections, on voit toujours une sorte de bouffée de racisme anti-haïtien qui s'exprime ici sans vergogne dans une période où, je dirais, à l'échelle internationale, le racisme, l'arrogance et, je dirais, l'ignorance la plus crasse sont au pouvoir et dédouanent Hannibal Abinader d'un comportement que nous estimons scandaleux.
Oui, c'est ça, c'est que le contexte est très particulier en République dominicaine. Vous nous disiez qu'il était allé peut-être un petit peu trop vite, le président dominicain. Quelle issue voyez-vous?
Je pense qu'il va mordre la poussière, au sens qu'il n'est pas suivi par toute l'élite ni intellectuelle ni politique dominicaine, parce que les gens ont quand même un reste de bon sens et savent que ce n'est pas le moment de s'en prendre à Haïti, d'autant que c'est pas comme s'il s'agissait du Nil, de l'Euphrate ou du Tigre. Là, c'est un ruisseau qui traverse la frontière pour revenir sur le territoire dominicain après un parcours d'à peine 2 km sur le territoire haïtien. Et tout cela met, on va dire, en danger éventuellement une population d'à peine 20 000 habitants en comptant les populations de part et d'autre de la frontière. C'est-à-dire une broutille. Le président Abinader a pris prétexte d'un incident qui aurait pu vraiment se régler par, je dirais, sans même monter au niveau de l'État, par des autorités municipales de part et d'autre de la frontière, d'autant qu'il y a une collaboration, une coopération même légendaire entre les populations de part et d'autre de la frontière dans cette partie du territoire. Donc, en tant que candidat à la présidence, il se souvient bien entendu des comportements de Trujillo qui en 1937 a massacré plus de 20 000 Haïtiens, ce qui a été pour lui l'occasion d'installer une dictature qui va durer plus de 30 ans. Donc je pense que les mêmes attitudes de Matamor inspirent aujourd'hui ce comportement, d'autant qu'il est assuré de l'appui de la majorité de la population qui est abreuvée de propagande raciste anti-haïtien.
Et en particulier en cette période préélectorale que vous mentionniez tout à l'heure. Alors on verra si les Nations Unies s'emparent de cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait être question de la force de police multinationale dont on parle depuis des mois et des mois. Le Kenya a accepté sous la pression d'en prendre la tête à plusieurs conditions. D'abord que d'autres pays envoient des hommes, et ça n'est pas le cas pour l'instant. Et à condition aussi que le Conseil de sécurité approuve l'opération. Là aussi, grand flou. Le vote qui était attendu vendredi dernier a été reporté. Est-ce que, Jean-Marie Théoda, selon vous, les Haïtiens attendent encore quelque chose de cette force?
Nous avons l'impression que le monde nous fait tourner en bourrique parce que cela fait plus de 2 ans que l'on parle d'intervention pour permettre de faire baisser la pression des gangs sur la population civile en Haïti. Il y a eu plus de 2400 morts à Port-au-Prince depuis le début de l'année, une comptabilité qui nous fait nous rapprocher de l'Ukraine, qui est un pays en guerre, alors qu'il n'y a pas d'invasion étrangère injuste comme c'est le cas dans cette guerre en Europe. Donc, il y a le sentiment de solitude existentielle du peuple haïtien. Et le seul peuple qui aurait pu nous tendre la main, ce peuple qui partage l'île avec nous, un peuple frère auquel nous avons apporté notre aide pour proclamer son indépendance, aujourd'hui nous plante un couteau dans le dos. C'est pour ça que nous sommes doublement attristés.
Alors on sait à propos de cette force de police multinationale que le secrétaire d'État américain a rencontré le patron des Nations Unies ce week-end, mais en fait les États-Unis ne prennent aucune décision, aucun engagement. Officiellement, Haïti c'est une préoccupation prioritaire, mais en fait peu de choses se passent.
Non, je corrige madame, Haïti n'est pas une préoccupation prioritaire.
Ça Haïti, c'est l'affichage.
C'est l'affichage, c'est le discours, mais quand on regarde la réalité des relations géopolitiques, à part vous qui faites parfois vos titres sur Haïti, personne n'en parle. Haïti est un trou noir. Haïti est inscrit dans une parenthèse historique qui nous relègue au second plan par rapport à l'Ukraine, par rapport à Taïwan, par rapport à même ce qui se passe aujourd'hui en Somalie. Et en fait, nous sommes géographiquement situés dans une zone où nous ne représentons un danger pour personne. Donc, nous pouvons pourrir dans notre jus et personne ne s'en inquiète.
Merci beaucoup Jean-Marie Théoda d'avoir été en ligne avec nous pour partager votre regard sur ces événements. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Fatra Port-au-Prince, qui est paru aux éditions Parole. Merci beaucoup.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Eh bien, chers auditeurs et auditrices de Radio Francophonie Connexion, vous venez d'écouter un podcast diffusé par Radio Francophonie Connexion et Haïti Connexion Network. Mes amis, nous faisons écouter un podcast que Radio Francophonie Connexion et Haïti Connexion Network diffusé pour nous, Haïtiens, tous côtés. Merci.